En fait, c'est le baromètre Odoxa pour Public Sénat et la presse régionale qui est publié aujourd'hui. Alors, Jordan Bardella, si on se fie, toujours pareil, hein, on n'est pas en 2017. C'est la photo du moment. Jordan Bardella,
2027.
On est en 2027.
Pitié, ne nous fait pas retourner en 2017.
La photo du moment, c'est Jordan Bardella à 30, 32% d'intention de vote. Et qui pour la deuxième place, alors?
Eh bien, c'est très serré puisque Édouard Philippe est à 17% et Jean-Luc Mélenchon est à 16. Dans ce sondage Odexa, Édouard Philippe perd 4 points, Jean-Luc Mélenchon en gagne 4. Et donc, on est dans les marges d'erreur. C'est-à-dire qu'à tout juste un an de l'élection présidentielle, l'écart n'a jamais été aussi serré entre les deux hommes qui pourraient donc obtenir ce fameux ticket permettant d'accéder au second tour, de se retrouver face à Jordan Bardella. On voit bien que la dynamique Mélenchon est amorcée depuis sa déclaration de candidature. En revanche, Édouard Philippe, qui avait bénéficié dans les sondages un petit rebond lorsqu'il avait été réélu maire du Havre, là, il patine. Édouard va-t-il subir le sort d'un autre Édouard il y a 30 ans, Édouard Balladur? C'est ce que pense notamment l'un de ses adversaires, Gabriel Attal. La baladurisation d'Édouard Philippe est en marche et Jean-Luc Mélenchon est dans une dynamique qui pourrait lui permettre d'accéder au second tour. Et donc, la prophétie Mélenchon-Bardella au deuxième tour se réaliserait.
Alors, à votre avis, qui est le mieux placé là pour parvenir au deuxième tour, si on se fie juste à ce qui se passe en ce moment? Édouard Philippe, Jean-Luc Mélenchon, 32-16, monsieur Charles Consigny?
Didier, ça attendait, tu peux t'exprimer en premier si tu le souhaites.
J'ai entendu
prendre sa respiration.
Je voyais qu'il me regardait, je suis parti.
Mélenchon, personne n'ignore qu'il a beaucoup de talent, que son mouvement est un mouvement militaire, efficace, organisé. Et vous savez, on dit qu'en politique, je crois que c'est Mitterrand qui disait ça, un professionnel naze ira toujours plus loin qu'un amateur excellent. Et donc, Mélenchon est un professionnel excellent. Donc il y cumule carrément les deux manières d'y arriver. Même si moi je continue à penser que s'il est au second tour, il est à peu près le seul, même si bon là les sondages expliquent que même Philippe serait battu par Bardella. Mais enfin, je pense quand même qu'une fois vraiment au pied du mur, si les Français ont à choisir entre Mélenchon et Bardella, je crains qu'ils choisissent Bardella. Alors que s'ils ont à choisir entre Philippe et Bardella, je pense quand même qu'il est possible qu'ils choisissent Philippe.
Ce que dit pas ce sondage, puisqu'au second tour...
C'est ce que j'ai dit.
Mais c'est plus serré.
Après, moi je trouve que si vous voulez, Philippe, il a quand même résisté à une espèce d'épreuve du temps, là. Ça fait quand même très longtemps qu'il est positionné, etc. Il s'est pas écroulé, contrairement à ce que beaucoup prétendaient.
Il est peut-être en train de s'écrouler.
Je pense que il est trop, je l'ai regardé l'autre jour, il a fait une émission de télé, je sais plus si c'était vendredi ou un jour comme ça. Il est trop en fond de course, si vous voulez. Il a un côté, ça me fait mal de dire ça parce que c'est vraiment le truc bateau, mais en le regardant, je me suis dit, il faut qu'il fende l'armure. Vous savez, c'est le truc que disent tous les éditocrates depuis des années. Mais je le pense vraiment. C'est-à-dire que il se prend quand même beaucoup au sérieux. Il a des réponses infrasées, des raisonnements qui sont compliqués. Alors que je suis sûr qu'au fond, il est quand même un peu plus simple que ça. En tout cas, je l'espère pour lui. Moi, l'image qu'il avait jusqu'ici d'être une espèce de quinquagénaire cool et stressé, c'était pas si mal. Si j'étais lui, je retournerais à ça. D'autant que je crois honnêtement, vous savez ce que j'en pense, moi je pense que la candidature du jeune Attal n'est pas sérieuse. Je pense qu'il est trop jeune et trop inexpérimenté pour ce poste et que, à mon sens, pour l'instant, elle a plutôt eu pour effet de crédibiliser celle d'Edouard Philippe. Mais si j'étais Philippe, je serais plus cool et plus, comment dire, plus au filet qu'en fond de cours.
Barbara, est-ce que tu es surprise par cet écart qui se resserre entre Jean-Luc Mélenchon et Edouard Philippe pour la deuxième place?
Non, parce que bon, on est à 11 mois de l'élection,
oui,
donc autant dire que ça a le temps de changer, rechanger.
On commente à un instant T.
D'autant plus que Monsieur Philippe a le PNF qui le guette, donc ça va bien
étonner. Il y a un juge qui a été nommé d'ailleurs.
Voilà, faut se dépêcher hein, quand même. Il va falloir mettre les petites peaux de banane là où il faut. Hein. Ils nous l'ont fait les deux dernières. Là, ils y vont, là, ils sont trop contents.
Le PNF, il y avait le patron du PNF, du Parquet National Financier ce matin sur RMC, qui disait qu'il était là au contraire pour la démocratie.
Ah, bon, bah ça va, alors je suis rassurée. Oui, pour faire un marchepied à Mélenchon, c'est vrai que c'est la démocratie. Non, le problème d'Edouard Philippe, comme l'a dit Charles, c'est qu'il n'y a pas de dynamique, mais se déclarer trop tôt, parler trop peu pour pas dire grand-chose, ben c'est sûr que ça va pas vous donner l'élan pour gagner des points dans les sondages, parce que les sondages aujourd'hui, on pourrait se dire, bon, ça sert à rien, on est dans 11 mois, ça n'a pas d'intérêt. Si, en tout cas, pour les candidats du centre, c'est important, parce que là, ils vont, ça va être la course de petits chevaux, on va dire, jusqu'en novembre, à savoir entre Darmanin, Attal, Philippe, et n'oublions pas les Bertrand et compagnie, parce qu'il y en a d'autres hein, qui traînent derrière, mais en tout cas, les trois principaux, Attal, Darmanin et Philippe, les sondages permettent quand même d'évaluer lequel doit avoir, on va dire, les primatures de tous les autres. Donc ces sondages-là, ils sont importants. Quand tu te prends 4 points dans la tête et que c'est Mélenchon qui a deux doigts de te passer devant, ben, Darmanin et Attal se frottent les mains en disant « Édouard Philippe, ben, tu vois, mon gars, on t'avait dit, c'est ta ligne. » Mais d'ailleurs, quelle est sa ligne ? Édouard Philippe a été ministre de Macron. Dernièrement, il nous dit faut qu'il démissionne. Après, il fait rétropédalage parce que bon, il se dit non quand même, j'ai un peu craché dans la soupe. Il a pas de programme. Il arrête pas de dire je vais avoir un programme de rupture. Moi, j'ai écouté son meeting. J'ai cherché où était le programme de rupture. Il y a pas de programme de rupture. La rupture, ce serait faire du Milei. Ou même, au pire, aller un peu du David Lisnard. C'est autant vous dire que la rupture, on n'en est pas là. Mais au moins, non, on n'en est pas là. Il est en train de rabâcher et de ressasser. De l'autre côté, Monsieur Mélenchon, moi je dis stratégiquement chapeau, la stratégie de Mélenchon, qui est la haine, la rancœur, la rancune, et nous annoncer avec fierté le grand remplacement, parce que il nous a expliqué que Zemmour avait raison de parler de grand remplacement, puisque c'est la nouvelle France, et nanine, et nanana. Moi je dis bravo, et Mélenchon va continuer sa stratégie de tension, de haine racialiste, parce que c'est ça qui, c'est son moteur. C'est le moteur de Mélenchon. C'est la provocation. C'est la tension. Et puis vous allez voir, à partir de octobre, novembre, de nouveau roudoudou.
Ah oui, ça va être.
Roudoudou, charmant. Sûr. Je te mets la petite cravate, j'arrête avec le col Mao.
Ça va être Raffarin.
Ah oui, Staline, Staline, Mao, Trotsky,
va défendre les valeurs de la République.
Et là, voilà.
Il va passer de Mao à Raffarin.
Il va sauver la République au mois de novembre.
Et vous verrez qu'on n'entendra plus les portes, les soudées,
ce sera le Sénat.
Les
gens, Rima Hassan. Plus beaucoup, hein.
Oui, oui, ils vont être encore. Regardez, on n'entend plus du levier tout ça.
D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, il met en avant Clémence Guettet.
Voilà, Clémence Guettet. C'est-à-dire tous les tout blancs, tout moches.
Donc,
c'est ça le problème. Et il y a un moment, on peut pas faire une campagne et ensuite finir sa campagne avec les tout blancs tout moches. C'est lui, hein. Moi c'est moi.
Oui,
moi
c'est
je ne fais que reprendre les termes
Alors Didier, est-ce que tu y crois à cet écart qui se
resserre? Non, mais je conteste pas la dynamique Mélenchon et Charles l'a très bien expliqué. Le vieux singe, il s'est grimpé aux arbres. Il sait faire.
Quatrième voilà. Candidature.
Hein. Après, moi, il y a un truc qui m'interroge là-dedans, en dehors du fait qu'on va faire des sondages à 11 mois à l'avance. À part nous faire causer, je vois pas à quoi ça sert. Comment des anciens premiers ministres de Macron peuvent s'imaginer à l'Élysée? J'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il y a dans leur cerveau pour imaginer ça. Parce
ils imaginent qu'ils ont l'expérience.
À la fin du fin, c'est pas les sondages à la fin du fin. C'est les mecs dans l'isoloir. Et les mecs dans l'isoloir qui, contrairement à Barbara, ont pas 6 heures d'antenne pour exprimer tout le mal qu'ils pensent du macronisme, les mecs dans l'isoloir, c'est à ce moment-là qui vont régler les comptes avec le macronisme. Et moi, je crois que tous les anciens premiers ministres, ils sont d'ores et déjà grillés.
Tu dis les sondages, mais je suis pas d'accord avec toi. Les sondages sont...
Ils vont servir au gaz départagé.
C'est primordial cette année. Pourquoi? Parce que Édouard Philippe lui-même a dit « je refuse la primaire ».
Oui.
Si tu refuses la primaire... Tu te départages avec les sondages.
Voilà,
ben oui.
Un ancien Premier ministre, que ce soit Attal ou Édouard Philippe,
autre chose,
ne pourra pas aller à l'Élysée.
Ça, c'est autre chose. Mais ils ne peuvent pas dire les sondages, on n'en a rien à faire. Ils sont rivés aux sondages parce que Édouard Philippe, sa légitimité, c'est ses sondages. Tant qu'il domine dans les sondages,
c'est la même chose.
Les Gabriel Attal, les Darmanin, c'est-à-dire les gens du bloc central, ils s'imposent. Le jour où il fera autant que Gabriel Attal, eh bien, tous ceux qui disent il faut une primaire diront bah, voyez, elle s'impose la primaire puisque personne. Et là, il sera obligé d'accepter une primaire.
Quand il sera doublé,
mais le problème est exactement le même à LR, à tous ceux qui n'ont pas passé par.
Mais non, LR, c'est Bruno Retailleau.
Tous les un peu dissidents là qui aimeraient bien y aller. Non, et puis qui aujourd'hui se disent si Bruno Retailleau s'écroule, ça nous ouvre une porte.
Mais c'est. pas tout à fait la même chose. Vraiment, le bloc central, c'est primordial, les sondages. Donc, c'est pour ça que Gabriel Attal, il va faire feu de tout bois. Il fait feu de tout bois parce qu'il pense qu'il peut grignoter, se rapprocher d'Edouard Philippe. Oui. Et à un moment donné, Edouard Philippe sera pas le candidat naturel.
Parce que tu penses que le cirque à Mur-en-Barèze, là, ça fait grignoter.
Ça, c'est dans la
ville. Dans le monde rural, là.
Mais c'est pas le monde rural qui vise, mon pauvre Didier. Tu crois que Gabriel Attal, il vise le monde rural?
Alors, qu'est-ce qu'il va faire à Mur-en-Barèze?
Mais pour se donner une image de proche de la France, c'est tout, proche de la France.
Parce que les gens fantasment là-dessus. Les gens qui habitent à Paris, ils disent, c'est bien, il connaît le terroir, etc. Mais c'est quand même le Parisien qui
votera
Gabriel
Attal. Et de la même façon que M. Darmanin nous fait sa sortie sur l'immigration.
Il est en Corrèze.
Il nous fait sa sortie sur l'immigration il y a 24-48 heures. Il était ministre de l'Intérieur, maintenant il est ministre de la Justice. Alors, je vais te dire, tu évoquais la question des ministres de Macron. Darmanin, lui, il y va jusqu'au bout, ministre de Macron. Donc, il aura une carrière à la Rachida Dati. Rachida Dati, si elle a perdu Paris en dehors de sa campagne, c'est aussi parce qu'elle était ministre de Macron et qu'elle avait lâché son camp. Donc, tous ces gens ne comprennent pas que Macron est radioactif, c'est tout.
Il y a la focalisation sur les candidats.
Non, rien qu'un peu.
Il y a la focalisation sur les candidats, mais moi, je pense que cette année, sur cette élection, c'est les programmes qui vont prendre le pas. J'en suis convaincu. Les programmes, quelle ligne pour la France? J'en suis convaincu. Et là, les deux lignes les plus claires, c'est quand même le Rassemblement National et c'est la France Insoumise. La France Insoumise,
le Rassemblement
c'est clair.
National, t'appelles ça une ligne claire?
Aujourd'hui,
t'as deux têtes, il y en a une qui dit la retraite à 60, l'autre à 62, puis il ouvre la porte à plus.
T'as un projet qui marche au moins sur des jambes qui sont claires, c'est la lutte contre l'immigration, la lutte contre la sécurité.
Sur l'économie, c'est pas la sécurité.
J'ai pas l'économie, il y a peut-être un petit peu de.
La France est à deux doigts d'être sous tutelle du FMI, donc autant te dire, le RN, ils ont intérêt à muscler leur programme.
Le seul qui est prêt, c'est Mélenchon pour moi.
Voilà. Jean-Luc Mélenchon, il le dit, on a un candidat, c'est moi, on a une équipe et un programme, c'est carré. Et quand tu regardes son programme, c'est assez carré.
Il est tout le temps prêt, son programme. C'est le même qui a 7 ans, c'est le même qui a 14 ans, il est tout le temps prêt.
Oui, c'est le leader, Maximo.
D'accord. Mais si tu veux, là, en plus, et il a théorisé un nouvel électorat qui va voter pour lui.
Oui, mais comment peut-il imaginer, en faisant, là, il fait 15%, et imaginons, il fait 16. Bon, imaginons, il se qualifie en faisant 16, 17, 18. Comment peut-il imaginer être président de la République en ayant fait que ça?
Président, ils veulent l'insurrection, il te l'a dit, Bakayoko et tout,
s'il t'explique. Je pense que s'il accède au deuxième tour.
Les Antifa dans la rue, les Raphaël Arnaud et tout.
Ça va être ça, c'est pour abuser la galerie.
Ah bah tu verras.
Et lui, il pense qu'arrivant au deuxième tour, il sera.
Samuel, bonjour, notre ami radiologue du côté de Strasbourg. Bonjour Samuel.
Bonjour aux grandes gueules.
Bienvenue Samuel. Alors à votre avis, là, vu ce qui se passe, Philippe Mélenchon, qui est le mieux placé pour aller au second tour? Si on suit au sondage du moment, je le rappelle.
Oui, alors les sondages, c'est bien gentil, mais je rappelle juste que M. Attal a quand même dit qu'il resterait, si les sondages sont favorables au mois de janvier, M. Philippe devrait céder sa place pour M. Attal.
Ben oui.
Et vu l'ambiance qu'il y a entre Mme Thévenot et les amis de M. Édouard Philippe, ça m'étonnerait, puisque je me souviens ce qui s'est passé au deuxième tour des élections municipales, quand on lui a posé la question, M. Édouard Philippe a fait qui ça? Ah oui, le mec d'Horizon. Donc je pense que les tensions sont très fortes. Donc je pense pas que M. Édouard Philippe va rassembler le bloc macroniste, parce que je pense que les tensions entre Attal et Édouard Philippe sont très fortes.
Je pense que Prisca Thévenot, c'est pas non plus un soutien de poids majeur qui sera déterminant dans l'élection présidentielle pour Édouard Philippe.
Mais alors qui voyez-vous, vous, alors Jean-Luc Mélenchon ou Édouard Philippe, on va se rapprocher de l'élection.
Déjà, il faut voir si Monsieur Philippe n'a pas de problème juridique. Donc, je rappelle juste que le parti financier a une plainte contre lui. Donc, je veux dire, tout ça, ça va se jouer. On va jouer dans le bas du caniveau, c'est-à-dire qu'on va, les Mélenchons vont profiter qu'il y ait ce problème-là, et puis on verra bien les effets divers, les effets d'actualité, ce qui se passe dans le monde. Si maintenant il y a encore une autre guerre qui se passe autre part, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Donc pour l'instant, à 11 mois d'élection, moi je suis désolé, c'est jouer à qui perd gagne et personne ne sait qui va être au deuxième tour. Il faut juste rappeler qu'il faut les maires, parce qu'il y a aussi les histoires des 500 signatures.
Tout à fait.
Et si M. Attal et M. Édouard Philippe sont candidats, ça va bouffer beaucoup de maires.
C'est vrai aussi. Il y a 36 000 communes, il faut faire sa signature. Maintenant, la plupart des communes, la plupart des maires ne veulent pas se prononcer. Il n'y a pas d'obligation pour le maire d'apporter sa signature.
Mais t'as pas que les maires.
Oui, mais je pense que ça peut poser problème, notamment à Gabriel Attal.
Samuel, on va voir ce qu'en disent ceux qui continuent de nous appeler au 32-16. Philippe Mélenchon, qui semble le mieux placé pour aller au deuxième tour de l'élection présidentielle. 32-16 pour continuer d'en discuter avec les GG, avec les grandes gueules, sachant que pour le moment, ce sondage de Toxa pour la presse quotidienne régionale continue de donner Jordan Bardella en tête à plus de 30% d'intention de vote. Allez, à tout de suite.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec vous bien sûr au 32-16 avec Charles Consigny, Didier Giraud, avec Barbara Lefebvre. Je regardais là pendant la pub, on en discutait, parce que là on est sur le sondage sur l'élection présidentielle, qui pourrait aller au deuxième tour, sachant que c'est Jordan Bardella qui est toujours donné en tête des intentions de vote. Ensuite, visiblement, il y a une bagarre là, hein, à date, hein, une bagarre entre Édouard Philippe et Jean-Luc Mélenchon. Mais on rappelle que pour aller déjà officiellement à l'élection présidentielle, il faudra avoir les 500 signatures. Du coup, c'est toujours bien de revoir un peu qui peut donner...
Révision.
Qui peut donner les 500 signatures? Alors, qui peut donner les 500 signatures? Ça fait entre 42 000 et 45 000 élus potentiels qui peuvent les donner. On a les maires délégués... Les maires d'arrondissement, ça c'est PLM, Paris, Lyon, Marseille. On a les conseillers régionaux, les conseillers départementaux. On a les présidents de PCI, c'est-à-dire les métropoles, communautés urbaines, communautés d'agglomération, communautés de communes. Les élus de Corse, les élus d'outre-mer, les élus nationaux et européens, les députés et sénateurs, les députés européens, voilà. Bien sûr.
Les chroniqueurs.
Et les trois règles à respecter. Un élu, une seule signature. 500 signatures qui viennent d'au moins 30 départements, plafond par département, pas plus de 50 signatures, soit 10% au total.
C'est pour ça que c'est pas si simple, contrairement à ce que vous avez dit. Et même des gens comme Gabriel Attal, sachant que Renaissance n'a pas non plus beaucoup d'élus dans énormément de départements, ça va être un combat. Et d'autant plus que tous ces élus ne sont pas obligés de parrainer, comme ce n'est plus anonyme. Avant, c'était anonyme.
Moi, je connais beaucoup de maires qui ne parrainent pas par peur des représailles.
Qui n'ont pas envie de se faire menacer, parce que maintenant, on se fait menacés de très rapidement, donc ils n'ont pas envie de représailles, et donc ils préfèrent botter en touche et pas parrainer.
Et je trouve que cette règle de rendre ça public, c'est une connerie.
Mais oui, bien sûr.
C'est une connerie parce que moi, je connais des maires qui, à l'époque, donnaient leur voix, des maires ruraux qui étaient sans étiquette, donnaient leur voix à un petit candidat, justement pour faire exister le débat démocratique.
Ouais. Et parrainer n'est pas forcément d'ailleurs un soutien.
Parrainer n'est pas soutenir, et je pense que ça, les gens ne l'ont pas compris. Et aujourd'hui, tu as quand même plein d'affaires où, dès que le nom de leur maire est divulgué comme soutenant, enfin, comme amenant sa signature à un tel ou à un tel, il y a une réaction dans les communes. Et moi, je connais plein de maires sans étiquette qui ne vont pas donner de leur signature.
Après, tu peux demander à ton conseil municipal, est-ce que vous êtes d'accord pour que nous parrainions un candidat à l'élection présidentielle?
C'est d'autant plus intéressant que...
Lequel?
C'est d'autant plus intéressant que tu aies rappelé ce système de nomination que Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron, en 10 années, n'a même pas réussi à s'enraciner dans le pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a les macronistes qui tiennent Paris, qui tiennent toutes les grandes institutions, les conseils d'État, les conseils constitutionnels, la Banque de France, le Cour des comptes, etc. Alors qu'ils n'ont aucun ancrage territorial, que les élections régionales, les élections municipales, ils n'arrivent à rien. Ils ont quelques petits points et à chaque fois, ils t'en font tout un cinéma comme si vraiment ils avaient réussi à décrocher. Les vrais partis enracinés, ça reste les LR, ça reste le Parti Socialiste. RN, au nord et au sud, ont réussi à s'enraciner un petit peu. La LFI a réussi quelques prises. Bon, c'est pas non plus extraordinaire, mais quand même. Le Renaissance, qui pourtant tient toutes les manettes, est en train de tout verrouiller pour 2027, ils n'ont pas d'ancrage territorial. Donc c'est très, très révélateur de la situation du...
Contrairement à LR,
leurs élus arrivent d'ailleurs.
Non, mais c'est tout, c'est tout le paradoxe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle du bloc central qui pourrait se qualifier au deuxième tour. Bruno Retailleau est quand même derrière, alors que les LR sont beaucoup mieux implantés localement et représentent peut-être plus les Français finalement aujourd'hui.
Ça, c'est sûr.
Et d'ailleurs, pour revenir à Édouard Philippe, le problème d'Édouard Philippe, à mon avis, un autre problème pour Édouard Philippe, c'est qu'il y a beaucoup d'électeurs de droite qui estiment qu'Édouard Philippe n'est pas de droite.
Ah bah non, il n'est pas de droite.
Et qui n'ont pas envie de voter Édouard Philippe. Et même si Bruno Retailleau se retire de la course, on peut le penser, s'il n'arrive pas à faire plus que 9-10%, est-ce que tous les électeurs de Retailleau voteront Philippe? Je suis pas sûr. Ça pourrait aussi se reporter sur Bardella ou sur Éric Zemmour ou sur
Dupont-Aignan. Et pas qu'au deuxième tour.
Voilà. Je parle du premier tour.
On va continuer d'en discuter avec vous, bien sûr. On a Cyril qui est notre ami apiculteur du côté de Saint-Malo. Bonjour Cyril.
Bonjour.
Bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Édouard Philippe, Jean-Luc Mélenchon, qui pourrait aller au deuxième tour, alors, selon vous?
Alors, je ne crois pas du tout que M. Mélenchon puisse aller au deuxième tour. Je pense qu'il fait peur à un grand nombre de gens, y compris les gens de gauche. Voilà. Mmh. Oui. C'est pas un monsieur qui a un problème de gauche. Je vais vous citer un exemple. L'inversion de la hiérarchie des normes, c'est un problème sur lequel il ne reviendra pas. C'est-à-dire que le code du travail, par exemple, avant la réforme, les sanctions pour les employeurs étaient de 6 mois minimum. Maintenant, c'est de 6 mois maximum. Et Charles Consigny peut vous en parler. Tous les avocats qui font du droit du travail en sont tout à fait maris, puisque ça ne vaut plus le coup d'aller au prud'homme. Et ça, c'est une réforme sur laquelle M. Mélenchon n'a pas l'intention de revenir. Voilà.
Ouf.
Ah non.
Pourquoi vous pensez ça?
C'est pas dans son programme.
Mais voilà. Vous dites qu'il y a trop de radicalité. Ça, dans le programme de Jean-Luc Mélenchon.
Alors, non seulement trop de radicalité, mais c'est pas un problème de gauche. Monsieur Mélenchon ne remettra pas, ne changera pas l'organisation de la société. Il remettra pas en cause
l'organisation
capitaliste de la société. Le seul parti qui serait en mesure de le faire, qui a le programme pour, c'est Lutte Ouvrière.
Non, il veut le remettre en cause. Est-ce qu'il y arrivera, est-ce qu'il y parviendra, c'est autre chose. Mais en recréant, vous voyez, un gros pôle bancaire public, en voulant renationaliser les autoroutes, en voulant reprendre en main le secteur
de l'énergie, on aura des super autoroutes, il a quand même des détenus de poule dans les autoroutes.
Il a quand même un programme, oui, où il veut que l'État reprenne la main sur beaucoup de choses.
Je ne sais pas où il va prendre l'argent pour racheter des entreprises
pareilles. Les autoroutes, c'est un billet de 55 milliards.
Oui, bah voilà.
Après, derrière, qui va le financer. Alors, Cyril n'y croit pas, vu la rachidité. Jordan est avec nous des Hauts-de-Seine. Bonjour, Jordan.
Manger les riches, LFI, hein, c'est ça.
Jordan, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Édouard Philippe ou Jean-Luc Mélenchon pour le deuxième tour? À l'heure où on se parle,
en tant que président du RN,
j'espère aucun des deux.
Pourquoi?
Enfin, moi, revivre un simulacre de législative 2024 avec un truc à trois entre Bardella, Mélenchon, et puis bon, là, ce sera Philippe à la place d'Attal, c'est au secours. Parce que bon, ces trois programmes, en gros, qui sont des continuités du socialistan dans lequel on est, où on a des programmes qui sont complètement déficitaires économiques.
Bravo, Jordan.
Ils ne résoudront pas les soucis. Pour moi, c'est la même tambouille. Alors, en regardant aux législatives 2024, le programme d'Attal, c'était 40 milliards de déficit supplémentaire. Le RN, c'était 120 milliards. Et Mélenchon, c'est 280 de plus. Hein. Je veux dire, il n'y en a aucun qui va dans la bonne direction. Donc, faire la politique du moins pire, moi, ça me va pas, personnellement. J'espère une alternative vraiment qui va dans l'autre sens.
Une alternative LR libérale, c'est ça, c'est ce que vous voudriez.
LR n'est pas libéral, hein. J'aimerais bien qu'il en aurait bien aimé qu'il le soit, mais il le soit.
Alors, j'ai oublié la virgule. LR, virgule, libéral, on va dire ça.
Vous seriez à la limite David Lisnard, quoi, vraiment.
Oui, lui qui va dans la meilleure direction, mais enfin, bon, il n'y a rien de parfait. De toute façon, c'est impossible d'être d'accord avec un candidat à 100%, mais dans ceux qui existent, pour moi, c'est celui qui va le plus dans la meilleure direction. Le problème, c'est que la mentalité française est tellement ancrée dans le collectivisme que faire changer les choses, c'est très compliqué. On a une culture économique qui est abyssale en France. Regardez le nombre de gens qui pensent encore que la retraite par répartition, c'est finançable. C'est quand même vraiment dramatique. Donc, à moins de faire du martèlement médiatique pour essayer de faire comprendre aux gens que le modèle dans lequel on est, il a fonctionné
à une époque
avec une démographie certaine qui ne fonctionne pas aujourd'hui dans la démographie actuelle. C'est juste une question de démographie. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, il faut s'adapter. Tous les pays ont fait leur mue depuis 20 ans. Enfin, ça a commencé prendre la Suède ou la Nouvelle-Zélande dans les années 90. Ça a continué dans les années 2000. Et nous, la France, on refuse de faire notre mue par rapport à l'actualité. Et je veux dire, c'est même pas une question de social, de droite, de gauche, etc. Regardez, il y a des pays qui sont soi-disant de gauche comme les pays nordiques, et pourtant ils ont fait une mue libérale au niveau des entreprises. C'est même pas une question de gauche ou de droite. C'est
juste ils ont la retraite à 70 ans.
Voilà, ils ont surtout une retraite mixte entre avec un fonds de base, on va dire, de répartition qui est au niveau RSA et équivalent, et le reste par capitalisation, parce que sinon on ne s'en sortira pas.
Donc. Jordan, je me permets juste, je ne crois pas que les Français soient collectivistes. Les Français sont étatistes. C'est pas exactement la même chose. Non, mais parce que, je veux dire, dans leur histoire, que ce soit l'histoire monarchique ou l'histoire même du 19e, de ces je veux dire, réétudier l'arrivée de la Seconde République, il y a une révolution, c'est la Seconde République, premières élections, c'est les monarchistes qui gagnent.
Ouais.
Donc, la Troisième République. Est instauré, gouvernement provisoire. Premières élections, c'est les monarchistes qui gagnent. Donc, les Français, ils ont ce goût de la personnification du pouvoir. Pour ça que Mélenchon
de la cohabitation.
Ouais, et ensuite, effectivement, de pouvoir faire vivre des choses qui normalement ne devraient pas vivre. La Seconde République, les monarchistes, la Troisième République, les républicains ont fait leur place. Mais, je veux dire, il y a cette volonté de croire chez les Français qui est complètement dans un inconscient collectif. Un homme ou une femme peut nous sauver. Ah, il peut tout faire. Dans l'économie mondialisée d'aujourd'hui, dans l'Europe de Schengen, je n'arrive pas à comprendre, et avec ce qu'on a vécu pendant le Covid, j'arrive pas à mesurer l'ampleur de cet inconscient collectif pesant qui fait qu'ils ne se rendent pas compte qu'aujourd'hui c'est terminé. On peut plus avoir un homme à la De Gaulle qui va venir tout régler. Et ceux qui se présentent aujourd'hui et qui font des campagnes en faisant croire quand j'arrive, il se passera ça. Mais non! Il y a la mondialisation, il y a l'Europe qui vous tient par tous les bouts. Donc c'est terminé cette époque-là. Donc il faut quelqu'un, soit à la Milei qui casse un bon coup, soit à la Mélenchon qui dit révolutionne.
Ouais, mais donc
c'est
toi
tout.
Tu dis qu'il faut forcément une offre radicale. Et
du coup, ce que tu décris,
c'est exactement l'homme providentiel.
Mais ce que je dis, c'est que vu l'attente des Français, qui est il faut qu'un homme nous sauve, il peut y avoir que ce genre d'homme radical. Et c'est pour ça que je disais et que je l'avais dit à Jordan Bardella ici, que leur stratégie bien habillée, un coup comme ci, un coup comme ça, on veut fâcher personne, ça ne marchera pas.
Oui, et en même temps, les gens
Leïla, bonjour. Leïla de Marc dans le Nord. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Leïla?
Alors, Mélenchon, je pense que moi, personnellement, j'ai plus d'espoir en lui. C'est bien, les jeunes aiment ce côté je la ramène, je casse les codes, mais derrière, il n'y a pas de fond. Donc, aller derrière lui, c'est un peu suivre une autre doctrine. Donc, elle parlait de doctrine, là, on irait vers une doctrine. Il faut aller vers du concret, il faut aller vers des choses qui nous ramènent aux valeurs travail aussi. Donc, les valeurs travail, c'est aussi, on a besoin d'aide et tout ça. Mais savoir que concrètement, là, c'est la responsabilité de tous les Français. Donc, aujourd'hui, c'est peut-être préparer les présidentielles différemment, les anticiper, mais peut-être même dans le mode opératoire des élections, peut-être anticiper cette voie-là, c'est-à-dire se poser et se dire est-ce qu'on le ferait pas, on découperait pas, on construirait les choses différemment, et on ne peut pas tout changer. Mais en tout cas, aujourd'hui, on doit arrêter tout ça, c'est-à-dire que blabla, droite, gauche, etc. Si on continue comme nos parents, Le Pen à l'époque, et avec tout Mitterrand, etc. Non, on arrête. Il y a des bonnes choses dans tout, voilà, et il y a des très mauvaises choses. N'allons pas vers ce qui nous éloigne de l'humanité quand même. Actuellement, c'est donc, un peu quand même.
Vous voyez plus Édouard Philippe, vous, du coup.
Ah, mais c'est. Je pense que.
Mais lui, en fait, ce que vous nous décrivez, c'était le projet à Macron il y a 10 ans, hein.
De Macron.
Ah, bah, c'est effectivement, mais là, aujourd'hui, Macron. Il y a ce côté, c'est un petit peu le reflet d'aujourd'hui. On est tout seul. Il y a certainement des bonnes choses. Il y a quand même des bonnes choses. Mais là, aujourd'hui, ça part complètement pour les avantages de l'un, pour les avantages de l'autre.
Je comprends rien à ce que vous dites, madame. Je suis désolé, mais je comprends pas ce que vous dites. Mais c'est marrant parce que vous soutenez le Bloc central.
Oui.
Vous êtes à l'image de ce Bloc central. On ne comprend pas ce que vous voulez. C'est intéressant d'ailleurs, psychologiquement.
Parce qu'elle va un peu tout
en même temps. C'est une famille politique pour les gens qui savent pas où ils habitent.
De toute façon, la discussion est terminée. Leïla, on aura l'occasion d'éclaircir les choses lors d'une prochaine discussion à propos de cette élection présidente. On est en pré-campagne,
Je rappellerai qu'en 2017, enfin, si on se projette en 2016, donc un an avant 2017, Emmanuel Macron n'était toujours pas candidat à l'heure où on parle.
Il n'était pas sondé.
Il n'était pas candidat en mai 2016. Donc
alors, on a posé la question, à votre avis, Philippe Mélenchon, aujourd'hui, là, il est le mieux placé pour aller au second tour. Leïla nous disait à l'instant, Édouard Philippe. Et ben là, c'est Jean-Luc Mélenchon. 54,1% face à Édouard Philippe, 45,9%.